l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu sur un plateau, le rendez-vous d'actualité locale sur Radio Larzac. Je suis accompagnée dans l'animation de cette émission par Souria et Arnaud. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui on parle cinéma et environnement, mais aussi jeux vidéo et littérature. En fin d'émission, Enora nous présente un roman qui fait écho au film de Robin Huntinger, qu'on aura le plaisir d'avoir au téléphone à l'occasion de la projection à la médiathèque de Millau de deux de ses films dans le cadre du Mois du Doc. Juste avant, vers midi 20, Arnaud nous partage sa passion pour le jeu vidéo Nier Automata. Mais tout de suite, on accueille notre premier invité, Thibaut Aubé, co-président de l'association Cause Compost, à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc je viens de le dire, notre premier invité de cette émission est Thibaut Aubé, bonjour.
Bonjour à tous.
Donc tu es co-président de la toute nouvelle association Cause Compost et nous te recevons à la veille de la Semaine européenne de réduction des déchets qui se déroule donc du 19 au 26 novembre et votre association organise plusieurs animations à Millau autour du compostage pour marquer ce coup. Mmh.
Mais pour commencer, le compost est un mélange de matières végétales et animales en décomposition. C'est un processus totalement naturel et qui permet au sol de se régénérer grâce aux débris végétaux qui deviennent de l'humus. Mais comment faire un bon compost ?
Alors, comment faire un bon compost ? Il y a une recette. En fait, il y a une recette. Alors, il y a plein de manières de faire du compost. Mais on va retrouver dans ces différentes manières, en général, on va retrouver des impondérables, des... Et alors ça passe par le mélange. Déjà le compost il sera d'autant plus réussi qu'il sera divers, donc avec une variété de déchets de différentes origines. On va mélanger en fait des déchets organiques, donc déchets de cuisine. Fin de repas, etc., avec des déchets qu'on appelle des déchets secs, ce qui n'est pas forcément le bon mot, mais en fait, ça va être du broyat de bois ou des feuilles de jardin, éventuellement ça peut être du carton aussi, du papier, et qui sont constitués de carbone, et qui vont avoir plusieurs intérêts. En fait, en mélangeant ces deux déchets, on va avoir en même temps une régulation de l'humidité, parce que les déchets de cuisine qu'on va apporter sont constitués essentiellement d'eau, et d'azote, et chimiquement c'est de l'azote, et on va les manger avec des déchets qui sont plutôt secs, donc par exemple du broyat de bois, ce qui est vraiment l'idéal pour faire un bon compost, c'est du broyat de bois, qui lui donc est sec et va permettre de réguler le taux d'humidité dans le compost, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop humide, et puis il va apporter aussi du carbone dans le compost, et on cherche à avoir à la fois du carbone et de l'azote, et un rapport carbone-azote intéressant. Donc voilà, mélanger différents déchets de cuisine avec des déchets un peu carbonés, donc du papier, du bois, des feuilles.
Et est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans un compost ?
Alors, il y a plein d'interdits comme ça, d'idées qu'on a qui ne peuvent pas se composter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, tout se composte. On parle des oranges qu'il ne faut pas mettre dans le compost. Les oranges dans la nature, elles tombent par terre, elles se décomposent naturellement en surface. Après, il y a certains éléments qu'on peut, quand on débute dans le compost, qu'on ne veut pas être trop embêté ou qu'on veut que ça se fasse facilement, il y a certains déchets qui sont pas forcément, qui se dégradent plus lentement ou qui peuvent, éventuellement, on parle souvent de la viande qui peut attirer les rats dans les composteurs. Juste une petite aparté, les rats, en fait, ils sont là, c'est pas le compost, ils y viennent parce qu'il y a à manger, mais en fait, on vit... On a souvent peur des rats et tout, mais les rats, ils sont partout où on vit, dans les villes, ils sont acclimatés et tout. Et c'est juste une source de nourriture. On les voit plus quand ils viennent dans les composteurs, mais les composteurs ne développent pas la population de rats dans les villes. Donc voilà, après, donc suivant les trucs, par exemple, on parle souvent des oranges. Les oranges, si ce n'est pas un énorme apport d'orange dans un composteur qui effectivement va retarder un peu la décomposition. En fait, les oranges, la peau, elle est composée d'huile essentielle qui ont plutôt tendance à empêcher le développement de la vie bactérienne, parce que je n'en ai pas parlé, mais le processus de compostage, il va être l'action de, ça va se faire par l'action de plein de toute une vie. Dans le compost, c'est rempli de vie, donc soit des petits animaux et aussi des bactéries. Et en l'occurrence, les oranges avec leurs huiles essentielles ont tendance un peu à retarder ou annihiler l'action de ces bactéries. Donc un gros apport d'orange direct ou d'oignon, par exemple, ça va retarder un petit peu Mais ce que je disais tout à l'heure, une fois quand c'est bien mélangé, justement, quand il y a plein d'apports divers et variés, là, le compostage, il se fait tout seul, il n'y a rien qu'on ne peut pas composter. Et juste, il y a un autre truc aussi qui peut être un peu difficile, c'est du pain. Le pain, ça se composte très mal, parce que en se dégradant et avec l'humidité, en fait, il va se créer une substance proche de la pénicilline, et du coup, qui, pareil, a tendance à annihiler la vie, parce que c'est la pénicilline,
c'est un antibiotique.
Ouais. Et du coup, ça va plutôt détruire la vie. Donc, des grosses quantités de pain dans le compost, c'est pas une bonne idée non plus.
Comment fonctionne la décomposition, le compostage des éléments mis dans un compost?
Alors, justement, c'est toute la vie qui va. En fait. Et la vie, elle vient d'elle-même parce que toutes les bactéries qui vont décomposer, donc c'est surtout des bactéries, mais aussi donc des petits insectes. Alors on les connaît, il y a les vers de terre qui sont on appelle ça les lombriques, c'est pas vraiment des lombriques en fait. C'est ce qu'on appelle des vers de compost et qui n'ont pas le même rôle que les lombriques. Les lombriques, en fait, travaillent en profondeur, alors que ces vers-là qu'on trouve dans le compost, des petits vers rouges qu'on utilise pour aller à la pêche, eux sont juste spécialisés sur la décomposition en surface des déchets en l'occurrence. Mm-hmm. Le mot déchet, je n'aime pas trop non plus, mais bon, on est bien obligé d'utiliser des fois. Et donc il y a les lombriques qui participent, mais il y a aussi toute une foule de petits animaux. Il y a les cloportes, les larves de cétoine qui sont des gros vers blancs. En fait. Et qu'on a pris comme logo, enfin comme emblème pour notre asso, le logo est composé d'une cétoine. C'est un gros ver blanc qui lui va décomposer surtout la matière ligneuse, donc le bois dans le compost, tout le broyat. Il préfère décomposer ça. Et chacun a sa spécificité. Et du coup, chacun va dégrader un peu va manger ce qu'il préfère. Et du coup, à la fin, au bout de quelques mois de compostage, on reconnaît plus rien. On reconnaît plus rien de ce qu'on a mis quelques mois avant.
Mmh. Et donc tu parlais du logo de ton asso justement, et c'est une asso toute récente qui est née parce qu'en fait certaines personnes s'occupaient de vider les composteurs mis en place par la communauté de communes Mio Grand Cause sur les quais. Et donc quel est votre rôle? Pourquoi vous avez choisi de créer cet asso?
Donc ouais, comme tu dis, ça a démarré par deux membres de l'asso qui en sont à l'origine, qui faisait partie d'un jardin partagé, et du coup, et qui n'était pas très loin justement des berges du Tarn et de là où il y avait les composteurs, et qui se sont mis à s'occuper, voyant que ces composteurs débordés étaient rapidement remplis, ils marchent bien ces composteurs, et ils sont sûrement un peu sous-dimensionnés, on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant d'apports, et sont mis à s'en occuper, donc c'est des composteurs partagés. Et l'idée, donc, il y a trois bacs, en fait. Il y a un bac de broyat, justement, et deux bacs pour le compost. Un pour le compost frais, donc un bac d'apport, ce qu'on appelle un bac d'apport. Les gens vont déposer leurs déchets dans ce bac. Et en mélangeant, en prenant à chaque fois un peu de broyat pour que le mélange se fasse bien. Si. Donc voilà, dans l'idéal, c'est chaque personne qui amène son petit sac de compost, vide son sac dedans, et met une petite couche de broyat par-dessus, ça permet d'avoir un bon mélange. Et il y a un autre bac à côté, qui lui, c'est le bac du compost qui est déjà réalisé, qui est plein, et dont on attend qu'il mûrisse. Donc voilà, ces bacs ont été bien investis, du coup, ils avaient tendance à être rapidement pleins, et c'est vrai que la Comcom n'avait pas forcément prévu, ou n'avait pas forcément les moyens d'avoir un suivi régulier, de les vider, ou de s'en occuper. Et du coup, Marina et Françoise, elles ont un peu pris ce rôle-là depuis. Ça fait plusieurs mois qu'elles font ça et qu'elles rapportent. Elles font partie d'un jardin partagé à pas très loin. Et du coup, elles passer, vider les composteurs quand ils étaient pleins et ramener dans leur jardin pour soit finir le compostage, soit utiliser le compost. Souvent, c'était plutôt finir le compostage parce que vu que ces bacs étaient petits, le processus n'avait pas le temps d'aller au bout. Donc voilà, après plusieurs mois, elles sont un peu intéressées à la question. Elles se sont rendues compte que, bah, que c'est un métier, en fait, d'être...
maître composteur.
Voilà, maître composteur, c'est un diplôme certifié, reconnu, et qui a du succès en ce moment, parce qu'on se rend compte, parce que la question, j'en ai pas parlé, mais il y a quelque chose qui arrive dans un peu plus d'un an, c'est l'obligation pour tous, particuliers comme professionnels, d'avoir un circuit de traitement particulier pour les biodéchets. Donc ça, c'est la réglementation européenne qui va l'imposer dans un an et quelques, et personne n'est prêt aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel de nos déchets de cuisine et tout part avec les ordures ménagères et sont pas triés à part. Donc aujourd'hui, tout le monde se réveille un petit peu. Le compostage est aussi le vent en poupe, intéresse pas mal, que ce soit les collectivités, même le grand public. Il y a un certain intérêt en ce moment. Et du coup, en se renseignant, elles se sont rendues compte qu'il y avait ce diplôme et elles ont décidé de se former. Donc elles sont en cours de formation pour être maître composteur. Et sur le modèle de d'autres associations qui existent en France et dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le Réseau Compost Citoyen, qui regroupe toutes les initiatives comme nous. Et l'idée, donc voilà, ça va être par cet asso de développer le compostage de proximité. Nous, on promeut un traitement de ces biodéchets au plus près possible de leur lieu de production, donc dans la ville, et pas les faire voyager sur des kilomètres en camion pour les amener sur d'autres sites. C'est une solution pour le traitement de ces déchets. C'est peut-être pas la seule. Peut-être que la solution passe par une multitude de solutions. En tout cas, nous, on veut développer ça sur le territoire environnais.
Et donc, pour rentrer un peu dans l'actualité de votre asso, la semaine prochaine, donc même à partir de ce samedi 19 novembre, vous organisez plusieurs animations à Millau pour sensibiliser à la pratique du compostage. Et ça commence donc ce samedi au Jardin du Secours catholique à partir de 11h pour inaugurer un site de compostage. Donc l'idée, c'était vraiment de sensibiliser à cette pratique.
Voilà, bah l'idée, oui, c'est de parler du compostage, de faire connaître un petit peu ce qu'il y a comme solution de compostage, notamment de compostage partagé pour les habitants de Millau. Alors qu'on est en ville, c'est pas évident. Quand on a un jardin chez soi, c'est relativement facile de faire son compost. Et voilà, quand on habite en appartement, c'est plus difficile. Donc voilà, il y a des composteurs partagés qui sont installés dans Millau. C'est en train de... Il y en a d'autres qui seront installés, il n'y en a pas assez, c'est sûr. Et du coup, l'idée, c'est de parler déjà de ces points d'apport de biodéchets, de parler du compostage aussi en général. Donc, par exemple, au Jardin du Secours catholique, ils vont créer une zone de compostage partagée pour les gens du quartier. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'était déjà... Le jardin catholique était déjà un lieu d'apport pour les déchets de jardin, donc tout ce qui était taille, branches, etc. Les gens du quartier le ramenaient parce qu'ils ont le matériel pour broyer et le transformer en compost, du coup. Oui. Du coup, c'est d'autant plus intéressant d'avoir en parallèle des composteurs pour les déchets des particuliers. Voilà, mais donc ce jour-là, samedi... au Jardin du Secours catholique, il y aura aussi des animations sur... Donc c'est toute la journée, et il y aura des animations sur la vie du sol, sur justement une démonstration avec cette grosse tondeuse pour transformer des branches d'arbres et de feuilles en un tas de broyat qui sert vraiment pour plein de choses, parce que nous, on l'utilise beaucoup pour le compostage. C'est super aussi dans un jardin pour couvrir les sols, et voilà, pour les nourrir, les couvrir. Voilà. Donc du coup, ça, c'est samedi, ce samedi au Jardin du Secours catholique. Et puis on a d'autres dans la semaine, d'autres moments.
Oui, dont on aura l'occasion de parler. Ouais.
vous avez déjà évoqué du coup le lombricompostage, mais et vous proposez justement dimanche 26 à 15h au Jardin partagé de la Grave un atelier pour apprendre à fabriquer maison un lombricomposteur. Mais en quoi est-elle bénéfique, cette pratique ?
Donc ça c'est dimanche 26, donc dans un peu plus d'une semaine, mm-hmm. on fait... En même temps, il y aura l'AG de l'association, donc, où tout le monde est invité. Ça devrait être, s'il fait beau, ce sera au jardin de la Grave. En cas de pluie, on se rapatriera vers le centre-ville et vers le jardin du Bar... Je pense que ça sera au Barbouille, okay. ou à côté du Barbouille, mm-hmm. ou dans les locaux du Barbouille, espace Beffroi. Et donc on proposera un petit atelier pour fabriquer des lombricomposteurs. Alors, lombricomposteur, c'est un terme, encore une fois, qui n'est pas exact, parce que comme je le disais tout à l'heure, les lombrics, ce n'est pas eux qui travaillent sur la décomposition de la matière mm-hmm. organique. En fait, le terme plus juste, bon, tout le monde appelle ça lombricomposteur, mais ça devrait être, on devrait plutôt appeler ça un vermicomposteur. Mm-hmm. Et donc ça, c'est une solution qui marche bien pour gérer, traiter soi-même ses déchets de cuisine quand on n'a pas d'extérieur. Donc ça se compose, en fait, c'est des bacs superposés qui sont percés et dans lesquels qu'on va remplir successivement, partant du bas, avec un mélange de ces déchets de cuisine, épluchures et compagnie, en mélangeant avec de la matière carbonée, parce qu'il faut toujours ce double apport de matière azotée et de matière carbonée. Donc on va rajouter, quand on habite en appartement, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir du broyat de bois. Par contre, on peut rajouter du papier, du carton. Et donc il y a une population de vers de compost qui vivent dedans et qui vont assez rapidement dégrader toutes ces matières. Et en fait, voilà, une fois qu'elles ont fini, donc on replie d'abord un plateau, on pose le deuxième plateau par-dessus, qui est percé. Et une fois qu'ils ont mangé tout ce qu'il y avait à manger dans le premier bac, ils montent dans le bac suivant où on a commencé à entreposer, à mélanger les déchets avec le carton. Et alors ça, moi je trouve ça très intéressant. Alors déjà le compost que ça sort en quelques mois, c'est magnifique. On en mangerait presque, j'exagère à peine. Et puis en fait, on a à la fois un apport de compost solide et un apport de compost liquide, ce qu'on appelle du thé de compost, et qui est en fait toute l'eau, toute l'humidité, donc il y a aussi un super engrais pour les plantes. Et ça se fait, donc ça se fabrique assez facilement, ça s'achète dans le commerce, les vermicomposteurs. Et aussi, nous, on proposera un petit atelier, on récupère des seaux de 5 litres dans les restaurants, les cantines. Et avec ces seaux, on fabrique assez facilement un petit vermicomposteur maison.
Okay. Et donc, tu as parlé de l'AG aussi qui aura lieu donc, le dimanche 26. Est-ce que, du coup, comment on peut vous rejoindre ?
Eh bien, alors...
Donc, en venant à l'AG.
Voilà, vous pouvez venir à l'AG. Ce sera l'occasion déjà de nous rencontrer. Et puis, si vous voulez adhérer ou participer à des actions de l'asso, encore une fois, elle est toute récente, cette association. On a plein de projets et plein de choses à venir. On est en cours de formation, donc, mais si vous voulez venir, soit avec parce que vous avez du temps et la volonté de vous former sur la question du compostage, ou avec un projet, en tout cas, vous pouvez venir nous rencontrer. Et puis, c'est toujours important de venir, d'adhérer pour montrer... en fait, une association, elle a... L'intérêt des adhérents, c'est pas tant les cotisations, qui en l'occurrence sont pas très élevées, c'est de montrer à la collectivité, à la puissance publique, que il y a un intérêt, que c'est un sujet qui intéresse et sur lequel il faut bouger. Et une association, plus elle a d'adhérents, plus elle a de poids auprès des institutions.
Voilà. Mm-hmm. Et donc, peut-être qu'à terme, vous allez aussi former des gens qui s'intéressent au compostage.
Alors, effectivement, ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on sera sûrement à faire à l'avenir. Il y a différents niveaux de formation. On n'en est pas encore à être reconnu organisme de formation, c'est compliqué, c'est quelque chose de... Mais il y a des formations un peu de première de la découverte, qu'on appelle les formations référentes sites. Par exemple, quand on ouvre un site de compostage partagé, il faut toujours trouver une ou deux personnes qui sont vraiment très motivées et qui assureront un suivi de ces composteurs. Il faut être là assez régulièrement, passer pour voir qu'il n'y ait pas eu des mauvais apports, etc. Et du coup, on forme des gens comme ça en quelques heures pour qu'ils ressortent et qu'ils aient les connaissances déjà de base pour ensuite assurer le... Donc ça, c'est des choses qu'on sera amené à faire prochainement. Ouais.
Merci beaucoup Thibaut Aubé.
Merci à vous pour votre invitation.
Donc je le rappelle, tu es co-présidente de l'association Cause Compost qui vous invite, chers auditeurs et auditrices, à participer à la semaine européenne de réduction des déchets à partir donc de ce samedi 19 novembre à 11h. Rendez-vous au jardin du Secours catholique à Millau, mais aussi par exemple le 22 et 23 au Biocoop de Cresse et Creissel, où des spécialistes vous expliqueront la pratique du compostage. Et vendredi prochain, donc le 25 sur le marché, et ensuite dimanche 26 pour encore des temps d'atelier et de convivialité, et l'assemblée générale de l'association aussi. Donc tout le programme, on va le mettre en site sur le site de Radio Larzac, mais il sera aussi disponible en contactant, en envoyant en mail, et votre adresse c'est causecompost@gmail.com.
Cause avec un S.
Cause avec un S, justement, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, Arnaud, je me tourne vers toi parce que c'est l'heure de la chronique. Pour ton premier passage en direct, tu nous as préparé une chronique sur un jeu vidéo que tu aimes bien. Ça s'appelle Nier Automata. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout une experte de jeux vidéo. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est ?
Nier Automata est un jeu de type RPG qui se joue en solo. Le jeu se trouve dans un monde post-apocalyptique. Nier Automata représente des androïdes envoyés depuis la Lune dans un futur lointain où la Terre a été dévastée par des extraterrestres. Le jeu est donc dans le thème futuriste.
Alors, un thème futuriste, quel est le but de ce jeu ?
Le but du jeu est d'exterminer des robots envoyés par des extraterrestres en tant qu'androïdes. Tout au long de l'aventure, vous pourrez changer de mode de jeu en changeant d'arme car... Nier Automata propose 39 armes, toutes différentes les unes des autres. Il faudra juste les trouver dans des endroits insolites dans la carte.
Donc il y a des armes, il y a des extraterrestres, donc c'est une ambiance un peu particulière quand même, celle de ce jeu.
Je trouve que le jeu a une bonne ambiance grâce aux plusieurs musiques disponibles dans le jeu. Et nous allons vous en faire écouter un extrait. Le style de jeu donne une ambiance très dynamique. Nier Automata me donne une impression de liberté quand je joue, parce qu'il donne la possibilité de faire plusieurs choix. Et ce sont ces choix qu'on fait en jouant qui impactent directement la continuation et le scénario du jeu. En effet, Nier Automata présente 26 fins possibles au fil de l'aventure. Il est d'ailleurs dans le top 8 des jeux avec le plus de fins possibles.
Alors, tu as parlé justement de top 8, et en effet, Nier Automata, tu m'as raconté, c'est un jeu qui a beaucoup de succès.
Oui, Nier Automata a failli remporter le titre de meilleur RPG en 2017. Le jeu a obtenu la note moyenne de 90% reçue grâce à 49 reviews internationales de jeux vidéo. Malgré qu'il soit sorti en 2017, il a toujours un grand succès aujourd'hui.
Et tu me parlais aussi des doublages que tu aimes bien.
Je trouve que les doublages sont bien faits et ressemblent aux voix de certains animés connus. Par exemple, le doublage du personnage féminin qui s'appelle Tsubi est fait par Yui Ishikawa, qui a également doublé Mikasa dans Attaque des Titans. Pour le deuxième protagoniste, le doubleur c'est Natsuki Anae, qui a également donné la voix à Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul.
Alors, si on a envie de commencer à jouer après quand t'as écouté, comment on fait pour se procurer ce jeu ?
Nier Automata est un jeu de rôle développé par Platinum Games et il est disponible sur toutes les plateformes, sauf sur mobile, et il est aussi disponible en manga. Je vous le conseille fortement.
Merci Arnaud. Alors toujours dans cette ambiance de manga et d'anime, tu nous as préparé une musique.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'on va écouter ?
Nous allons vous faire écouter une musique venue du film Your Name, un animé sorti en 2016 et composé par Rad Wimps.
Rad Wimps, ouais, on l'écoute tout de suite.
人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ父の言葉が今日は暖かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ転がってる叶えたい夢も今日で100個できたよたった一つといつか交換故障いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日かけた慣れないこともたまにならいいね特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようよ
タイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時の隠れんぼはぐれ
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actu sur un plateau sur Radio Larzac. C'était Nandemoneia de Radu Wimps que vous venez d'écouter. Et c'est le moment pour notre deuxième interview. Pour cela, j'accueille Anne Bussière de la médiathèque du Sud Aveyron. Bonjour, bonjour Anne. Et nous sommes au téléphone avec Robin Hunsinger. Bonjour Robin.
Bonjour.
Alors, novembre, c'est le mois du documentaire en France. Cette année, le thème choisi est vacillement, mais à milieu, ce thème se décline en portrait de femme, et donc il sera projeté deux films de Robin Hunsinger, Où sont nos amoureuses, et Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang. Ce sont deux films qui racontent deux périodes différentes de la vie d'Emma Pitoisé, qui est votre grand-mère, Robin. Et ces films ont été construits à partir de ces lettres et des images d'archives. J'aimerais commencer par vous demander comment est né ce film Où sont nos amoureuses, qui est le premier que vous avez réalisé sur cette histoire.
Alors effectivement, Emma est notre mère et grand-mère, parce que j'ai fait ces deux films avec Claudique et ma mère. Et elle nous avait laissé ses cahiers intimes. Et en 2006... dans une coopération entre deux générations, mère et fils, on avait réfléchi ensemble au roman familial. Et de là, on a écrit ce documentaire qui s'appelle « Où sont nos amoureuses ?», dont Emma est le personnage principal, un film qui raconte comment, dans les années 30 et 40, des jeunes gens à la fois politisés et romanesques furent pris dans la grande histoire du XXe siècle et à travers la guerre, avec un autre regard sur un autre personnage qui était Robespierre et qui était l'amoureuse d'Emma.
Et donc, au début du film, il y a une voix off qui dit que les lettres et les photos et les cahiers intimes aussi que vous avez retrouvés ont été très précieusement conservés. Et donc, est-ce que vous pensez que votre grand-mère avait presque l'intention de vous les faire découvrir un jour ?
Elle avait l'intention de les faire découvrir parce qu'en fait, elle avait écrit un manuscrit qu'elle avait tapé à la machine pour la famille, où elle racontait son histoire à travers les années 20 qui sont racontées dans Ultraviolette, et puis toutes les années 30 et 40 qui sont racontées dans Où sont nos amoureuses. Et ce manuscrit qui a été donc qui a tapisserie, elle l'a offert à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc il y avait de sa part une vraie envie de raconter son histoire et de la partager aux autres générations, et puis ce manuscrit était resté dans les familles. Et puis nous, on a voulu aller plus loin, donc en reprenant effectivement pour Où sont nos amoureuses tous ces cahiers intimes qu'elle avait, et en se disant waouh, quelle histoire finalement que c'est de destin, parce que dans ce film on parle donc d'un deuxième personnage qui est Thérèse, et en faisant le film on va découvrir le destin de Thérèse, qui a été résistante en Bretagne, qui va avoir plus de 200 hommes sous son commandement et qui va être finalement une des grandes figures de la résistance communiste en Bretagne.
Et justement, vous l'avez dit, c'est une histoire d'amour en fait que Emma a entretenue avec Thérèse. Et au fil du film, on découvre beaucoup de leurs propos, même philosophiques, politiques. Et donc, peut-être votre intention était aussi de donner un exemple de féminisme, en tout cas de figure forte de femme à cette époque.
Tout à fait, parce que ce qui était vraiment étonnant finalement quand moi j'ai travaillé sur la figure des deux, parce que les deux effectivement en 35, elles vont en URSS un an avant Gide, elles cherchent à comprendre et à voir l'émancipation des femmes soviétiques, elles sont déçues, mais elles cherchent, elles sont engagées politiquement, et en ça je trouvais ça absolument passionnant parce qu'on connaît peu ces figures de femmes. Et il y a seulement 2 ans que le nom de Thérèse Pierre commence à être connu, où des historiennes d'Europe entière travaillent sur sa figure. Il y a son nom est porté par un parc à Paris, mais ça fait seulement 2 ans, donc c'est une figure qui revient, mais qui était totalement oubliée. Moi, j'avais vraiment envie qu'on en sache plus pour elle et puis lui rendre hommage parce qu'effectivement il y avait rien, et donc c'était important de faire ce film et de révéler son histoire au public, ce qui a été le cas, puisque aujourd'hui je vous dis c'est devenu une figure, mais à l'époque il y avait absolument rien sur elle. Et le film a permis de révéler son histoire, et puis en même temps de montrer comment ces deux jeunes filles, qui sont très différentes, Emma a l'air très forte, et finalement elle va avoir un destin beaucoup plus compliqué dans l'Alsace annexée par les nazis, alors que Thérèse, elle va mourir, elle, de torturée par la SPA, qui était la police anticommuniste de la Gestapo pendant la guerre. Et pour moi, c'était essentiel de pouvoir lui rendre hommage.
Et Robin Hunsinger, votre mère Claudie Hunsinger a été récompensée très récemment du prix Femina pour son livre Un chien à ma table, qui reprend aussi l'histoire d'Emma. Donc, vous...
Pour Un chien à ma table, il reprend pas l'histoire
d'Emma.
D'accord. Elle a fait deux livres où, en fait, quand on faisait un film, elle a sorti à chaque fois effectivement un livre, et il y a eu donc L'incandescente, qui est un peu l'histoire qu'on retrouve dans Ultraviolette. Et elle a fait un autre livre il y a déjà quelques années, qui était d'ailleurs son premier roman, et qui raconte, dont elle vivait d'espoir, l'histoire qu'on trouve dans Au son de nos amoureuses. Donc effectivement, à côté des films, il y a deux livres, mais Un chien à ma table est une histoire totalement différente.
Oui. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous et elle, vous avez traité de cette histoire familiale avec vos langages respectifs, donc le cinéma et l'écriture.
Tout à fait. C'était vraiment quelque chose à laquelle on tenait. C'était de pouvoir travailler ensemble sur l'exploration, je vous dis, de cette histoire d'Emma qu'elle nous a léguée, et de ses lettres, dont on trouvait qu'il y avait une beauté romanesque absolument incroyable. Et grâce à des photographies, grâce à des documents, on a pu traiter de certains grands thèmes dans Ultraviolette. On traite de l'adolescence, de la rébellion, de la mort qui est pas loin, parce qu'en fait le personnage d'Ultraviolette va rentrer dans un sanatorium, et la mort est toujours totalement présente, et on montre comment l'adolescence peut finalement être le passage de tous les dangers, et comment Marcel, cette très jeune fille qui a un regard extra lucide, va traverser finalement la mort avec sensibilité, curiosité, avec une rage à vif. Et Ultraviolette, seul temps des transgressions, la découverte de l'amour. Et on trouvait qu'il y avait une dynamique romanesque absolument incroyable, qui dans le film, on a un film à une durée d'une heure et quelques, et Claudie voulait aller plus loin, et c'est pour ça qu'elle a écrit, elle, le livre, qui est de 200 pages. Moi, dans le film, c'est une vingtaine de pages de texte, en tout et pour tout, même s'il y a beaucoup de sentiments à travers les images qu'on peut raconter.
Et donc justement, en parlant plus dans le détail du deuxième film Ultraviolette, comme vous l'avez dit, ça raconte la jeunesse d'Emma avant sa rencontre avec Thérèse. Pourquoi vous avez choisi de travailler en quelque sorte à rebours, donc d'abord faire Où sont nos amoureuses et ensuite revenir à l'arrière sur la jeunesse d'Emma?
Bien sûr, effectivement, on a fait des choses un peu à l'envers. Donc, on a fait des choses à l'envers parce qu'en fait, au départ, moi, j'avais beaucoup de documents sur toute cette période des années 30 et 40 d'Emma. C'est-à-dire que j'avais des photographies de tous les personnages et que j'avais de quoi faire un film assez facilement. Pour Ultraviolette, j'avais juste une immense correspondance de plus de 1000 lettres et j'avais même pas de photos au départ. Donc, je rêvais énormément de cette jeune fille, Marcel. J'avais très envie de faire un film sur elle, mais je savais pas comment m'y prendre. Et puis, un jour, en allant chez une de mes tantes, je suis tombé sur deux photographies dans un album de photos. Et je me suis dit que l'une des photos, je la connaissais, c'était la photo d'Emma, ma grand-mère. Et l'autre photo, qui était en vis-à-vis, était une jeune fille qui avait des cheveux assez courts, que je trouvais très belle. Et je me suis dit, par rapport à la période de l'album photo, à tous les coups, c'est Marcel. En fait, je suis parti de cette photographie en me disant je peux faire un film à partir d'une photographie. Mais c'était plus culotté, plus compliqué. Mais je me disais qu'en travaillant sur ce qu'on appelle le footfrontage, donc la réappropriation d'images d'archives préexistantes de l'époque, je pourrais peut-être trouver une manière de tenir une cigarette, la manière de courir, la manière de marcher, la manière d'aimer. Et donc, je me suis mis à chercher des jeunes filles de ces années-là, des années 20, à travers tous les fonds d'archives auxquels j'avais accès. J'ai travaillé longuement à Cyclic, au centre Val-de-Loire. J'ai travaillé dans des centres d'archives avec des images expérimentales, comme à l'Icône à Paris. J'ai commencé à avoir un corpus d'images assez incroyable. Et donc, d'un côté, j'avais ce corpus d'images d'archives de l'époque. Et parallèlement, j'ai commencé à chercher dans les familles des personnages que j'avais trouvés, qui avaient été au sanatorium, s'il n'y aurait pas des albums de photos dans lesquels je pourrais retrouver d'une manière véridique mes personnages. Et j'ai eu la chance de retrouver la famille de Marcel et la famille d'Hélène. Et un jour, je suis allé à Bordeaux et voir un monsieur qui était le petit-neveu d'Hélène, qui est un des personnages du film. Et là, j'ai découvert l'album de photos de la Sainte-Fère, qui est un sanatorium dans la Creuse. Et j'ai pu retrouver toutes mes jeunes filles. Et donc là, ça a été un moment incroyable.
Bah oui, j'imagine.
Mais au départ, en fait, j'avais pas la matière filmique. Et donc, c'était un travail de longue haleine. Donc, plus compliqué.
Oui, et d'ailleurs, vous avez fait vous-même des études d'histoire, et ce n'est pas étonnant au vu de votre recherche que vous faites pour vos films. Et vous dites aussi, dans une interview, avoir été fascinée par l'approche de Marc Bloch et l'école des Annales, qui est à l'origine de la micro-histoire. Et c'est une approche qui ressort beaucoup, évidemment, dans vos travaux. Et est-ce que, pour vous, c'est une approche qui renaît un peu dans le film documentaire en général, aujourd'hui ?
Je ne sais pas, ça, exactement, mais c'est vrai que c'est une approche qui, moi, dans mes études d'histoire que j'avais fait à l'Université de Strasbourg, était très forte. Dès les premières années de l'université, on travaillait sur les cahiers de doléances de la Révolution française, et on s'intéressait, en fait, on mélangeait la sociologie et l'histoire pour s'intéresser aux gens dans leur vie, et non juste aux grands événements de l'histoire. Et que l'histoire, moi, m'a toujours totalement fasciné. Après, le documentaire, c'est un genre vraiment très, très large. L'histoire fait partie, l'archive fait partie, c'est une sous-famille, mais qui, moi, me passionne, évidemment, depuis très longtemps, et dans laquelle je continue à travailler. Parce qu'on a la chance, finalement, en travaillant sur des personnes qui ont vécu à un moment donné, ben, un peu de les ressusciter, je trouve, de leur redonner vie, de montrer des choses d'elles. Et par exemple, dans Ultraviolette, ce que je trouve assez extraordinaire, j'étais la semaine dernière à Tours, où des étudiantes avaient travaillé sur Ultraviolette, et elles me disaient, elles avaient 20 ans, elles me disaient, oh, elles sont incroyables, les filles d'Ultraviolette, c'est vraiment comme, c'est des femmes qui sont comme des guides. Elles nous montrent des choses du passé, mais on a l'impression qu'elles sont devant nous, qu'elles sont comme une voix devant nous, alors qu'elles sont derrière nous, et on n'aurait jamais imaginé ça. Ben voilà, faire un film, ça permet de montrer des voix qui viennent du passé, qui finalement sont très modernes, et qui réinterrogent les sentiments qu'on peut éprouver là dans Ultraviolette, autour de la liberté, de l'amour, de la rébellion, de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, de quelle manière on vit. Et enfin, c'est assez merveilleux.
Et je rappelle d'ailleurs que Ultraviolette a été récompensé par le Festival international du film documentaire d'Amsterdam dans la catégorie Best Creative Use of Archive. Et donc je vous remercie beaucoup, Robin Hansinger. Et donc Anne, est-ce que tu veux rappeler le détail des projections ?
Concernant Robin Hansinger, ses films seront effectivement projetés le mardi 29 novembre à Millau. Le mardi après-midi à 14h30, ce sera à la médiathèque avec également la classe de Joël Comper du lycée Jean Vigo en ce qui concerne l'audiovisuel et le cinéma. Donc il y a déjà une trentaine d'élèves qui viendront, mais c'est ouvert quand même au public. Et ensuite, la deuxième projection aura lieu au cinéma, ce sera Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang. Mais le mois du doc commence à la médiathèque également le mardi 22 novembre. L'après-midi avec la sieste musicale concoctée par Lucie et le soir à 20h30 avec Jéricho, l'envol infini des jours.
Donc voilà. Ce sera le 22 à la médiathèque toujours.
Oui.
Okay. Merci beaucoup, merci encore Robin Hansinger.
Merci.
Et c'est l'heure Arnaud de la deuxième pause musicale. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Je vous ai préparé une musique venue du film Suzume, un animé sorti le 11 novembre 2022. Composé par Radwimps et Kazuma Jinichi.
Et on l'écoute tout de suite. Kimi no naka ni aru akatoka okisen Sore が結ばれるのは真の像風の中でも曲げない夜な声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は賑肌星はうぶすな なんで泣いてる
答えれる涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ意味をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな愚かさでいい醜さでいい正しさのその先で。
Sur les notes douces de Suzume no Tojimari, l'actu sur un plateau sur Radio Larzac reprend. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique littéraire d'Enora.
Découverte, idée, rencontre.
La chronique littéraire d'Enora dans son avant-ginaire.
Aventure et imaginaire au creux de vos oreilles.
On a parlé avec notre invité Robin Hunzinger de femmes en temps de guerre et à travers l'histoire. Et on continue dans cette lancée avec Enora, puisque cette semaine, malgré sa voix un peu cassée par un rhume, elle nous parle d'une fresque littéraire du XXe siècle, Le fil rompu, par Céline Spirer, un point de vue des femmes pour un siècle de souffrance. Et on l'écoute tout de suite.
Tout commence dans une petite ville de Pologne, dans l'Empire russe, en 1912. Tout se termine à New York en 2016, avec Ethan et Madame Janik. Au milieu, Katarzyna débarque à Ellis Island en 1913. Elle y découvre le quotidien des migrants qui rêvent de l'American Dream. Edith raconte sans filtre les secrets cachés des cours d'histoire sur l'entre-deux-guerres. Le New York des années 30 de Madame Goldstein tient davantage des alcôves que des grands boulevards. La Seconde Guerre mondiale de Magda attendrit l'innommable. Et des odeurs, à n'en plus finir. Alcool, désespoir, sueur, brûlé, sang, boue, honte, et de la peinture par touche, et des bruits de bombes, et des blessures par dizaines. Tel est le cocktail enivrant promis par le fil rompu de Céline Spirer, dont je vous lis un court extrait. Qu'est-il arrivé à vos mains ? Ce n'est rien, une vieille cicatrice. C'était curieux ce besoin de savoir qui se contentait de si peu. Récent aussi, lui semblait-il. À son époque, on acceptait l'absence d'explication, par pudeur, par respect, et peut-être aussi parce qu'on savait la vérité difficile à supporter. La nouvelle génération était-elle réellement plus courageuse et plus soucieuse d'obtenir des réponses? Ou était-elle animée d'une curiosité malsaine, façonnée par une culture de l'information de surface, des gros titres choquants, une image frappante, où le contexte n'apportait plus et où les faits, au bout du compte, n'intéressaient personne? Le fil rompu de Céline Spirer a été publié en 2020 chez les éditions Héloïse d'Ormesson. C'est une fresque historique et féminine comme je n'en avais jamais lu. Les personnages masculins ne sont là que comme des projecteurs qui mettent en lumière les personnages féminins. Katarzyna, Madame Janik, Magda et Edith. Ce sont elles qui racontent. Il est question de beaucoup de choses dans cette fresque d'un siècle. Espoir, égalité, argent, racisme, parentalité, maladie, mais jamais, jamais de haine. Alors même qu'il est question du siècle des guerres mondiales. Le fil rompu est avant tout une leçon de point de vue. Les premiers temps de lecture sont assez longs. La mise en page est dense, ou peut-être n'était-ce que mon édition. Mais on sent le nombre de pages défiler sous ses doigts. Ça prend son temps. Mais on continue. On s'accroche car on pressent que la plume de Céline Spirer sera aussi poétique qu'abrupte. Et quand on y est, ce roman de 400 pages vous engloutit tout entier. La longueur des chapitres n'importe plus que pour mesurer le temps qui vous reste dans cette histoire ahurissante. Je ne pouvais plus lâcher, vous ne pourrez plus le lâcher. Pire, vous palpiterez du suspense instauré par les ellipses et les récits de vie qui s'entremêlent. C'est là la force d'un bon roman polyphonique. Pourquoi un tel retour en arrière? Pourquoi cette date? De qui est-il question? Qu'est-ce qui le relie toutes? Pourquoi sommes-nous ici? Je veux connaître la suite d'un autre personnage. Alors respirez et acceptez l'inconnu. Céline Spirer sait tout autant prendre son temps qu'aller droit au but. Sa maîtrise de la temporalité ne rend que plus claquante les révélations. un coup de cœur inoubliable. Et même 2 ans après, je vibre de pouvoir vous parler de ce livre. Ajoutons à ça le coup de massue que je me suis prise quand j'ai découvert que c'était un premier roman. Laissez-vous englober par le fil rompu. Vous m'en direz des nouvelles.
C'était Enora avec sa chronique littéraire. Vous pourrez retrouver les références qu'elle cite sur la page web de l'émission. Et c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci à nos invités Thibaut Aubé et Robin Hunsinger. Merci à Arnaud et Enora pour leur chronique. Merci à Souria pour l'interview. Et bien sûr, merci à Nico, toujours derrière la vitre pour assurer la régie de l'Actu sur un plateau et de beaucoup d'autres émissions. Mais surtout, merci à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Larzac. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel tour d'horizon de l'actualité locale. Mais tout de suite, c'est le flash info de RFI sur nos ondes. Très très belle écoute à vous sur Radio Larzac.